Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Dans le cadre de Lectures en liberté, nous revenons ce soir à L'écume des jours de Boris Vian. Chic passa la poterne de contrôle et donna sa carte à pointer à la machine. Comme d'habitude, il trébucha sur le seuil de la porte métallique du passage d'accès aux ateliers et une bouffée de chaleur et de fumée noire le frappa violemment à la face. Les bruits commençaient à lui parvenir. Sourd frombissement des turbo-alternateurs généraux, chuintement des ponts roulant sur les poutrelles entrecroisées, vacarme des vents violents de l'atmosphère se ruant sur les tôles de la toiture. Le passage était très sombre. Éclairé tous les 6 mètres par une ampoule rougeâtre dont la lumière ruisselait paresseusement sur les objets lisses, s'accrochant pour les contourner aux rugosités des parois et du sol. Sous ses pieds, la tôle bosselée était chaude, crevée par endroits. Et l'on apercevait par les trous la gueule rouge et sombre des fours de pierre tout en bas. Les fluides passaient en ronflant dans de gros tuyaux peints en gris et rouge au-dessus de sa tête, et à chaque pulsation du cœur mécanique que les chauffeurs mettaient sous pression, la charpente s'infléchissait légèrement vers l'avant avec un faible retard et une vibration profonde. Des gouttes se formaient sur la paroi, se détachant parfois lors d'une pulsation plus forte. Et quand une de ces gouttes lui tombait sur le cou, Chic frissonnait. C'était une eau terne et qui sentait l'ozone. Le passage tournait tout au bout et le sol, maintenant à claire-voie, dominait les ateliers. En bas, devant chaque machine trapue, un homme se débattait, luttant pour ne pas être déchiqueté par les engrenages avides. Au pied droit de chacun, un lourd anneau de fer était fixé. On ne l'ouvrait que 2 fois par jour, au milieu de la journée et le soir. Il disputait aux machines les pièces métalliques qui sortaient en cliquetant des étroits orifices ménagés sur le dessus. Les pièces retombaient presque immédiatement si on ne les recueillait pas à temps dans la gueule grouillante de rouages où s'effectuait la synthèse. Il y avait des appareils de toute taille. Chic connaissait bien ce spectacle. Il travaillait au bout de l'un des ateliers et devait contrôler la bonne marche des machines et donner aux hommes des indications pour les remettre en état lorsqu'elles s'arrêtaient après leur avoir arraché un morceau de chair. Pour purifier l'atmosphère, de longs jets d'essence traversaient obliquement la pièce, luisant de reflets par place et condensant autour d'eux les fumées et les poussières de métal et d'huile chaude qui montaient en colonnes droites et minces au-dessus de chaque machine. Chic releva la tête. Les tuyaux le suivaient toujours. Il arriva à la cage de la plateforme de descente, entra et referma la porte derrière lui. Il tira de sa poche un livre de Partre, pressa le bouton de commande et se mit à lire en attendant d'atteindre le sol. Le choc sourd de la plateforme sur le butoir de métal le tira de sa torpeur. Il sortit et gagna son bureau, une boîte vitrée et faiblement éclairée d'où il pouvait surveiller les ateliers. Il s'assit, rouvrit le livre et reprit sa lecture, endormi par la pulsation des fluides et la rumeur des machines. une discordance dans le vacarme lui fit soudain lever les yeux. Il chercha d'où provenait le bruit suspect. Un des jets de purification venait de s'arrêter net au milieu de la salle et restait en l'air comme tranché en deux. Les quatre machines qu'il avait cessé de desservir trépidaient, on les voyait remuer à distance, et devant chacune d'elles, une forme s'affaissait peu à peu. Chic posa son livre et se rua au dehors. Il courut vers le tableau de manœuvre des jets et baissa rapidement une poignée. Le jet brisé restait immobile. On eût dit une lame de faux, et les fumées des quatre machines montaient en l'air en tourbillonnant. Il abandonna le tableau et se précipita vers les machines. Elles s'arrêtaient lentement. Les hommes qui y étaient affectés gisaient à terre. Leurs jambes droites, repliées, formaient un angle bizarre à cause de l'anneau de fer, et leurs quatre mains droites étaient sectionnées au poignet. Le sang brûlait au contact du métal de la chaîne et répandait dans l'air une odeur horrible de bête vivante carbonisée. Chic, au moyen de sa clé, défit les anneaux qui retenaient les corps et étendit ceux-ci devant les machines. Il regagna son bureau et commanda par téléphone les brancardiers de service. Il revint ensuite près du tableau de manœuvre et tenta de remettre le jet en marche. Rien n'y faisait. Le liquide partait bien droit, mais arrivé au niveau de la quatrième machine, disparaissait sur place. Et l'on apercevait la tranche du jet aussi nette que s'il eût été sectionné d'un coup de hache. Tâtant avec ennui son livre dans sa poche, il se dirigea vers le bureau central. Au moment de quitter l'atelier, il s'effaça pour laisser sortir les brancardiers qui avaient empilé les quatre corps sur un petit chariot électrique et s'apprêtaient à les déverser dans le collecteur général. Il suivit un nouveau couloir. Loin devant lui, le petit chariot vira avec un ronronnement doux et laissant échapper quelques étincelles blanches. Le plafond, très bas, répercutait le bruit de sa marche sur le métal. Le sol montait peu à peu. Pour arriver au bureau central, il fallait longer trois autres ateliers et Chic suivait distraitement sa route. Il parvint enfin au bloc principal et entra chez le chef du personnel. « Il y a une avarie au numéro 709, 10, 11 et 12 », signala-t-il à une secrétaire derrière un guichet. « Les quatre hommes à remplacer et les machines à enlever, je pense. » Puis-je parler au chef du personnel ? La secrétaire manœuvra quelques poussoirs rouges sur un tableau d'acajou verni et dit « Entrez, il vous attend ». Chic entra et s'assit. Le chef du personnel le regarda d'un air interrogateur. « Il me faut quatre hommes, » dit Chic. « Bon, » dit le chef du personnel, « demain vous les aurez. » « Un des jets de purification ne fonctionne plus, » ajouta-t-il. « Ah, ça ne me regarde pas, » dit le chef du personnel, « voyez à côté. » Chic sortit et remplit les mêmes formalités avant d'entrer chez le chef du matériel. « Un des jets de purification du 700 ne marche plus, » dit-il. « Plus du tout ?»« Il ne va pas jusqu'au bout, » dit Chic. « Vous n'avez pas pu le remettre en marche ?» Non, dit Chic, il n'y a rien à faire. Je vais faire examiner votre atelier, dit le chef du personnel. Mon rendement baisse, dit Chic, faites vite. Ça ne me regarde pas. Voyez le chef de la production. Chic gagna le bloc voisin et entra chez le chef de la production. Il y avait un bureau violemment éclairé et derrière le bureau, fixé au mur, un grand tableau de verre dépoli, sur lequel l'extrémité d'une ligne rouge se déplaçait très lentement vers la droite, comme une chenille au bord d'une feuille. Les aiguilles de gros niveaux circulaires à lunettes chromées tournaient encore plus lentement sous le tableau. « Votre production baisse de 0,7% » dit le chef. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Quatre machines hors circuit » dit Chic. « À 0,8, vous êtes renvoyé » dit le chef de la production. Il consulta le niveau en pivotant sur son fauteuil chromé. « 0,78, dit-il à votre place, je me préparerai déjà. »« C'est la première fois que ça m'arrive, dit Chic.
Ah, je regrette, dit le chef de la production, peut-être pourrait-on vous changer de service.
Je n'y tiens pas, dit Chic, je ne tiens pas à travailler, je n'aime pas ça.
Personne n'a le droit de dire ça, dit le chef de la production. Vous êtes renvoyé, ajouta-t-il.
Je n'y pouvais rien, dit Chic. Qu'est-ce que c'est que la justice ?
Jamais entendu parler, dit le chef de la production. J'ai du travail, il faut dire.
Chic quitta le bureau. Il retourna chez le chef du personnel.
Puis-je être payé ? Demanda-t-il. Quel numéro ? Demanda le chef du personnel. Atelier 700, ingénieur. Bon.
Il se tourna vers sa secrétaire et dit : Faites le nécessaire.
Allô, dit-il, un ingénieur de rechange, type 5, pour l'atelier 700.
Voilà, dit la secrétaire en donnant une enveloppe à Chic. Il y a vos 110 doublezons.
Merci, dit Chic, et il s'en alla.
Il croisa l'ingénieur qui allait le remplacer, un jeune homme maigre et blond, l'air fatigué. Il se dirigea vers l'ascenseur le plus proche et pénétra dans la cabine.
St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me straight leg shoes, box back coat and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat.
En liberté, Denis Flageol.
Après cette pause musicale, nous revenons à L'écume des jours de Boris Vian.
Isis descendit. Nicolas conduisait la voiture. Il regarda sa montre et la suivit des yeux tandis qu'elle pénétrait dans la maison de Colin et de Chloé. Il avait un uniforme neuf de gabardine blanche et une casquette de cuir blanc. Il était rajeuni, mais son expression inquiète trahissait un désarroi profond. L'escalier diminuait brusquement de largeur à l'étage de Colin et Isis pouvait toucher à la fois la rampe et la paroi froide sans écarter les bras. Le tapis n'était plus qu'un léger duvet qui couvrait à peine le bois. Elle atteignit le palier, haleta un peu et sonna. Personne ne vint ouvrir. Il n'y avait aucun bruit dans l'escalier, sinon de temps à autre un léger craquement suivi d'un éclaboussement humide lorsqu'une marche se détendait. Isis sonna de nouveau. Elle percevait de l'autre côté de la porte le léger frisson du marteau d'acier sur le métal. Elle secoua un peu la porte qui s'ouvrit d'un coup. Elle entra et trébucha sur Colin. Il reposait allongé par terre, la figure sur le sol, de côté et les bras en avant. Ses yeux étaient fermés. Dans l'entrée, il faisait sombre. Autour de la fenêtre, on voyait un halo de clarté qui ne pénétrait pas. Il respirait doucement. Il dormait. Isis se baissa, s'agenouilla près de lui et lui caressa la joue. Sa peau frémit légèrement et ses yeux bougèrent sous ses paupières. Il regarda Isis et parut se rendormir. Isis le secoua un peu. Il s'assit, passa la main sur sa bouche et dit « Je dormais ». « Oui, » dit Isis. « Tu ne dors plus dans ton lit ?»« Non, » dit Colin. « Je voulais rester là pour attendre le docteur et aller chercher des fleurs. » Il avait l'air complètement désorienté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit Isis. « Chloé, » dit Colin. « Elle tousse de nouveau. »« C'est un peu d'irritation qui reste, » dit Isis. « Non, » dit Colin. « C'est l'autre poumon. » Isis se leva et courut vers la chambre de Chloé. Le bois du parquet giclait sous ses pas. Elle ne reconnaissait pas la chambre. Sur son lit, Chloé, la tête à demi cachée dans l'oreiller, toussait sans bruit, mais sans interruption. Elle se redressa un peu en entendant Isis entrer et reprit haleine. Elle eut un faible sourire. Quand Isis s'approcha d'elle, s'assit sur le lit et la prit dans ses bras comme un bébé malade. « Tousse pas, ma Chloé, » murmura Isis. « Tu as une jolie fleur, » dit Chloé dans un souffle, en respirant le gros œillet rouge piqué dans les cheveux d'Isis. « Ça fait du bien, » ajouta-t-elle. « Tu es encore malade ?» dit Isis. « C'est l'autre poumon, je crois, » dit Chloé. « Mais non, » dit Isis, « c'est le premier qui te fait encore un peu tousser. »« Non, » dit Chloé. « Où est Colin ? Il est parti me chercher des fleurs ?» « Il va venir, » dit Isis. « Je l'ai rencontré. »« A-t-il de l'argent ? » ajouta-t-elle. « Oui, » dit Chloé. « Il en a encore un peu. »« À quoi ça sert ? Ça n'empêche rien. »« Tu as mal ?» demanda Isis. « Oui, » dit Chloé. « Mais pas beaucoup. »« La chambre a changé, tu vois ?»« Je l'aime mieux comme ça, » dit Isis. « C'était trop grand avant. » « Comment sont les autres chambres ?» dit Chloé. « Oh, bien !» dit Isis évasivement. Elle se rappelait encore la sensation du parquet, froid comme un marécage. « Ça m'est égal que ça change, » dit Chloé, « du moment qu'il fait chaud et que ça reste confortable. »« Sûr, » dit Isis, « c'est plus gentil, un petit appartement. » « La souris reste avec moi, » dit Chloé, « tu la vois là-bas, dans le coin ?» Je ne sais pas ce qu'elle fabrique, elle ne voulait plus aller dans le couloir. Oui, dit Isis. Donne encore ton œillet, dit Chloé, ça fait du bien. Isis le détacha de sa chevelure et le donna à Chloé qui l'approcha de ses lèvres et le respira à longs traits. Comment va Nicolas ? Dit-elle. Bien, dit Isis, mais il n'est plus gai comme avant. Je t'apporterai d'autres fleurs quand je reviendrai. » « Je l'aimais bien, Nicolas, » dit Chloé. « Tu ne vas pas l'épouser ?»«
Je ne peux pas, » murmura Isis. « Je ne suis pas à sa hauteur. »
« Mais ça ne fait rien, » dit Chloé, « s'il t'aime. »
« Mes parents n'osent pas lui en parler, » dit Isis.
« Oh !» Le yai blêmissait soudain. Ce fripa parut se dessécher. Il tombait maintenant en fine poussière sur la poitrine de Chloé.
« Oh !» dit Chloé à son tour. « Je vais tousser encore, tu as vu ?»
Elle s'interrompit pour porter la main à sa bouche. Une quinte violente la ressaisit.
« C'est cette chose que j'ai, qui l'ai faite toute mourir, » balbutia-t'elle.
« Ne me parle pas, » dit Isis. « Ça n'a aucune importance. Colin va en rapporter. »
Le jour était bleu dans la chambre et presque vert aux angles. Il n'y avait pas encore trace d'humidité et le tapis restait assez haut, mais une des quatre fenêtres carrées se fermait presque complètement. Isis entendit le bruit humide des pas de Colin dans l'entrée.
« Le voilà !» dit-elle. « Il t'en rapporte sûrement !»
Colin apparut. Il avait une grosse gerbe de lilas dans les bras.
« Tiens, ma Chloé, » dit-il, « prends-les !» Elle tendit les bras.
« Tu es gentil, mon chéri, » dit-elle.
Elle posa le bouquet sur le second oreiller, se tourna sur le côté et enfouit sa figure dans les grappes blanches et sucrées.
Isis se levait. « Tu t'en vas ?» dit Colin.
« Oui, » dit Isis.
« On m'attend.
Je reviendrai avec des fleurs.
Tu seras gentil de venir demain, » dit Colin. « Il faut que j'aille chercher du travail et je ne veux pas la laisser toute seule. » « Avant d'avoir revu le docteur, je reviendrai, » dit Isis.
Elle se pencha un peu avec précaution et elle embrassa Chloé sur sa joue tendre. Chloé leva la main et caressa la figure d'Isis, mais elle ne tourna pas la tête. Elle respirait avidement le parfum des lilas qui se déroulait en volutes lentes autour de ses cheveux brillants. « Colin ?» cheminait péniblement le long de la route. Elle s'enfonçait de biais entre des levées de terre surmontées de dômes de verre qui prenaient au jour un éclat glauque et incertain. De temps à autre, il levait la tête et lisait les plaques pour s'assurer qu'il avait pris la bonne direction. Et il voyait alors le ciel rayé transversalement de marron sale et bleu. Loin devant lui, il pouvait apercevoir au-dessus des talus les cheminées alignées de la serre principale. Il avait dans sa poche le journal dans lequel on demandait des hommes de 20 à 30 ans pour préparer la défense du pays. Il marchait le plus vite possible, mais ses pieds enfonçaient dans la terre chaude qui partout reprenait lentement possession des constructions et de la route. On ne voyait pas de plantes. Surtout de la terre en blocs uniformes amoncelés des deux côtés, formant des remblais rapides en équilibre instable et parfois une lourde masse oscillait, roulant le long du talus et s'abattait mollement sur la surface du chemin. À certains endroits, les remblais s'abaissaient et Colin distinguait à travers les vitres troubles des dômes des formes bleues sombres qui s'agitaient vaguement sur un fond plus clair. Il pressa le pas, arrachant ses pieds des trous qu'il formait dans le sol. La terre se resserrait aussitôt comme un muscle circulaire et il ne subsistait plus qu'une faible dépression à peine marquée. Elle s'effaçait presque immédiatement. Les cheminées se rapprochaient. Colin sentait son cœur vibrer dans sa poitrine comme une bête enragée. Il serra le journal à travers l'étoffe de sa poche. Le sol glissait et se dérobait sous ses pieds, mais il enfonçait moins et la route durcissait perceptiblement. Il aperçut la première cheminée près de lui, fichée en terre comme un pal.
des oiseaux foncés tournaient autour du sommet d'où s'échappait une mince fumée verte. À la base de la cheminée, un renflement arrondi assurait sa stabilité. Les bâtiments commençaient un peu plus loin. Il n'y avait qu'une porte. La suite de cette histoire de Colin et Chloé est loin d'être terminée. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une prochaine lecture de L'écume des jours de Boris Vian. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.